Emmanuelle Hébel est attachée à l'enseignement et à la recherche au département art du spectacle de l'université Marc Bloch de Strasbourg 2. Elle est en cours de rédaction de sa thèse qui s'intitule « L'objet marionnettique sur la scène contemporaine, le cœur utopique ». Voilà, je vais glisser de côté les enjeux de la matérialité dans le spectacle de marionnettes seront le fil rouge de l'intervention d'Emmanuelle Hébel. Alors, je me glisse sur le côté pour laisser l'image.
Bien. Alors, je suis désolée de... Voilà. Alors j'ai intitulé cette intervention « Former une concrétion, les enjeux de la matérialité dans le spectacle de marionnettes » et j'ai pensé que puisqu'il s'agissait de matière, il était peut-être utile de montrer quelques images aussi pour appuyer ma pensée, mais comme je ne savais pas qu'il y aurait un vidéoprojecteur, je n'étais pas sûre qu'on pourrait les montrer, donc on va voir si ça vient bien mettre en concrétion mon propos. La matérialité de la marionnette a longtemps été son péché originel, on va dire. C'est elle qui, à l'instar des ombres de la caverne de Platon, finalement, les marionnettes étaient considérées comme n'ayant pas de capacité à atteindre la sphère des idées. La matérialité l'a souvent cantonnée au rang, je cite Kleist, d'espèce de jeu inventé pour la populace. C'est ce que Kleist évoque dans son texte intitulé « Sur le théâtre de marionnettes ». C'est notamment pour cette raison qu'on va parler du marionnettiste souvent comme d'un artisan et parce que c'est aussi un fabricant d'objets articulés et qu'il s'intéresse à la dimension technique et matérielle. Or, au XXe siècle, cet art qui proposait une pratique centrée sur l'objet s'est révélé en adéquation étroite avec des problématiques esthétiques émergentes. Et finalement, les marionnettistes, finalement, comme au XXe siècle, assume la matière et se débarrasse de la toute-puissance de la forme qui serait englobante, enfermante et qui aurait mené le théâtre de marionnettes vers une pratique plus de la forme que de la matière. Et ça se passe tout à fait parallèlement à ce qui se passe dans les arts plastiques au XXe siècle, puisque comme l'observe Florence de Mérodieu dans un ouvrage intitulé « Histoire matérielle et immatérielle des arts modernes », elle explique que la matière est alors, donc au XXe siècle, ce qui vient perturber la forme et bousculer un art par trop impeccable. Les techniques de la marionnette... C'était tourné vers la virtuosité technique liée à la maîtrise d'une forme et au XXe siècle se laisse à nouveau contaminer par la matière, par la matérialité. Si on s'intéresse à ce que signifie le mot matière, on se rend compte qu'il y a deux approches possibles de cette notion. La première, c'est la matière, c'est une substance qui rend la forme palpable. Et la deuxième, c'est la matière comme fond indéterminé, fécond et polymorphe que la forme va venir structurer pour le regard. Ces deux approches, on va le voir, très différentes l'une de l'autre, la première soumettant la matière à la forme et la seconde exprimant l'idée que peut-être que la matière peut générer une forme. Donc, finalement... Oh, excusez-moi, mes feuilles ne sont pas dans le bon sens. Donc, voilà. Alors que les marionnettes traditionnelles, celles qu'on pourrait dénommer comme tradition marionnettique, étaient tournées vers une forme prééminente, l'attachement à la matière vient la bousculer et prend le risque de la matière dans sa complexité et sa malléabilité. La forme ne vient donc pas en amont de la matière, mais la matière en amont de la forme. Et là, je vais juste évoquer un petit élément théorique qui va peut-être s'éclairer par la suite, je l'espère en tout cas. On se place ici dans le cadre de réflexions qui ont essaimé le 19e siècle et qu'on pourrait retrouver par... et jusqu'à aujourd'hui qu'on pourrait retrouver par Kant, Hegel et puis Bergson sur les modes de saisie du réel, c'est-à-dire la capacité de s'approprier ce que Kant appelle la chose en soi. Donc la chose aussi à la fois matière et pensée. Alors que Kant voit trois modalités de saisie de la matière, la première étant la matière détermine la forme de l'intelligence, la seconde étant l'intelligence impose une forme à la matière, et la troisième étant la matière et l'intelligence sont réglées l'une sur l'autre selon une harmonie primordiale. Bergson, lui, dans L'évolution créatrice, un texte publié au début du 19e siècle en 1907, au début du 20e siècle en 1907, pardon, va proposer une quatrième modalité qui serait que l'intelligence et la matière se sont adaptées l'une à l'autre pour entrer en adéquation dans une forme commune, et ce serait notre situation actuelle, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à la création à travers cette modalité-là. Je vais prendre deux exemples pour rendre maintenant tout ça concret, parce que là on était vraiment dans l'introduction. Le premier étant un spectacle qui a été créé en 2005 par la compagnie Tohubohu Théâtre, qui s'appelle L'Isolo ou les échos du sable. Et dans ce spectacle, la matière est vraiment au centre de la démarche. Elle envahit le plateau. Alors je vais vous montrer un élément de la scénographie. Elle envahit le plateau et cet envahissement est la source du surgissement du propos scénique. Il n'y a pas de forme fixe qui donnerait une stabilité rassurante à la représentation, pas de processus récurrent, mais une exploration des matières qui vont entrer en collision et former une concrétion. Et j'utilise le mot concrétion au sens géologique du terme, c'est-à-dire une condensation par accumulation qui va faire surgir une forme. Mais ces concrétions elles-mêmes sont éphémères et les matières retrouvent rapidement leur indétermination. Le projet de création de L'Isolo ou les échos du sable consistait à se confronter à l'Afrique des villes, c'est-à-dire en exploitant des matériaux comme la ferraille, les rebuts de voitures, les déchets, on voit un univers très métal pour... faire rebond sur l'intervention de Jean-Luc Matteoli, métal et sable, etc. L'idée étant de proposer quelque chose qui relève du foisonnement de la ville et qui permette des concrétions, c'est-à-dire des formes urbaines. Et que ces formes-là, que ces concrétions-là, au fur et à mesure du spectacle, structurent un propos. Donc lors d'une première phase de création qui s'est déroulée à Kinshasa, donc dans la ville de Kinshasa, en 2003, le plasticien Daniel de Puteau, scénographe de la représentation, trouve dans la ville un tas de ferraille entièrement rouillé et impropre à toute utilisation, un tas de déchets. À partir de ces rebuts, il compose une série de figures qui sont utilisées à la fois comme marionnettes et comme ombres, et ces éléments sont complètement déclassés, impossibles à reconnaître ou à utiliser de façon fonctionnelle. Ils ont retrouvé l'état de matière telle qu'elle est décrite par Florence de Mérodieu, toujours dans le même ouvrage, où elle dit « La matière serait ainsi le monde avant découpe, un univers de sensations brutes avant que la perception ne vienne y apporter l'arsenal de ses codes. » Et ce sont effectivement les sens qui se trouvent sollicités en premier face à la matière. Pas de bienséance, les matières peuvent être mises en avant puis anéanties. Elles peuvent laisser entrevoir un univers des possibles, débarrasser des codes et des images acquises et collectives. Aucune continuité ou linéarité n'est nécessaire, puisque la matière suffit à elle-même à forger un fil rouge. Elle impose une structure mouvante liée à ce qu'elle laisse émerger. Elle n'est pas un support de projection docile, apte à prendre en charge des représentations lisses, épurées, précises. Elle contamine le propos, le démonte et le transgresse. Il s'agit donc de trouver un langage de fragmentation, faire émerger du changement, de nouvelles représentations, ou plutôt de nouveaux points d'ancrage pour de nouvelles représentations. C'est-à-dire proposer un langage neuf, en adéquation avec ce qui constitue à la fois la source et l'aboutissement de cet univers fragmenté. Le point de départ, c'est la prise de conscience d'une instabilité chronique continuellement à l'œuvre. L'avènement de personnages non plus clairement définis et précisément définis, mais plutôt silhouettés, esquissés, en est un des effets. Le caractère éphémère et la métamorphose perpétuelle inscrite dans la forte malléabilité de l'objet marionnettique en sont aussi les produits. Dans L'Isolo, Gilbert Meyer, à un moment donné, fouille dans les déchets jonchant l'espace scénique et en sort deux rétroviseurs de voiture. Il adjoint un tissu au bas de chacun d'eux et obtient deux figures féminines qu'il fait converser. Puis, dès que leur dialogue est terminé, il les pose dans les déchets en tout genre sans plus s'en préoccuper aucunement. Ce n'est que lors de la fixation du regard que le support est stable, ensuite il s'anéantit. C'est le moment de l'observation qui est fondateur, lui seul est productif, et c'est ce à quoi s'attachent les marionnettistes dans les spectacles contemporains, provoquer un réseau de structuration du regard entièrement autonome et artificiel qui fonctionne sur des principes d'écho, d'analogie et de structuration mentale. La manipulation du marionnettiste ne concerne plus seulement le support marionnettique, mais aussi le contexte de son émergence et l'élaboration d'un angle propice à l'éveil du regard du spectateur. Un designer assez connu qui s'appelle Ezio Manzini considère, quant à lui, qu'aujourd'hui, à une époque où la technoscience manipule l'extrêmement petit et gère l'énormément complexe, la matière n'apparaît plus à l'échelle de nos perceptions comme une sorte de matériau, mais plutôt comme un continuum des possibilités. Ces nouvelles conceptions de la matière changent l'approche qu'en a l'artiste. Le support n'est plus un matériau, il s'envisage comme une continuité, comme une structure liante et souple qui permet d'étendre son propre système représentatif. Le principe de création par déformation ou défiguration et par contamination de proche en proche devient un processus de création valide et intéressant. Et pour conclure sur ce premier exemple, je citerai Bruno Schultz dans le Traité des mannequins qui parle de la matière en disant « Il n'y a pas de matière morte, la mort n'est qu'une apparence sous laquelle se cachent des formes de vie inconnues. » Tout l'enjeu donc consiste à s'approprier et à explorer ces formes de vie inconnues, c'est-à-dire se confronter à l'inconnu aussi. Alors, donc là, deux images de ces fameuses figures qui sont à la fois effigies de personnages et utilisées comme ombre et comme objet marionnettique, qui ont été conçues à partir des déchets d'un tas de ferraille rouillée trouvée à Kinshasa. On voit certaines figures rapidement. Deuxième exemple, le spectacle d'État de femme de la compagnie S'appelle Revient. Alice Laloy utilise différentes marionnettes. Et beaucoup d'entre elles sont des marionnettes matières, c'est-à-dire des marionnettes qui sont conçues à partir de matières premières. La formation de scénographe d'Alice Laloy permet de comprendre la spécificité de son approche des arts de la marionnette. Dans ce travail, il n'y a pas de distinction entre l'approche de l'objet manipulé et l'approche de l'espace scénique. Exactement d'ailleurs comme dans le spectacle qu'on a vu précédemment, Les Solos ou Les Échos du Sable. Donc l'espace scénique engendre les matériaux nécessaires à la constitution des principales marionnettes. Les éléments disposés sur scène sont saisis par les manipulateurs tout au long de la représentation et transformés en corps marionnettique. La scénographie laisse supposer à la fois un ventre de femme et un atelier de création, dans les deux cas un lieu de gestation. Les premières marionnettes du spectacle sont réalisées à partir de sable, de sucre ou de peinture, à partir du matériau présent sur scène que s'approprient les interprètes confrontés à des amoncellements de matière brute sans forme. Par la suite, on voit pas très bien, mais on s'imagine en tout cas. Là, c'est un des marionnettistes confronté donc à un amoncellement de morceaux de sucre et qui va les superposer jusqu'à ce qu'il y ait une figure qui en émerge. Par la suite, une des marionnettes centrales du spectacle est façonnée par les manipulateurs sous le regard des spectateurs à partir d'un bloc de terre glaise. Cette marionnette se démultiplie au cours de la représentation, elle change de forme. Alors là, on voit une des étapes de sa métamorphose. Elle change de forme et même d'identité, elle n'est jamais aboutie par une fixation définitive. À aucun moment on ne se dit « ça y est, elle ne va plus évoluer ». On a toujours l'impression qu'il va encore se passer quelque chose. Le spectateur la perçoit constamment comme une identité en cours d'élaboration, comme un espace de transformation et de métamorphose. La caractéristique de la marionnette centrale de la représentation est justement une des spécificités de la représentation dans son ensemble. Le passage d'un support à un autre tout au long de la représentation s'inscrit tout à fait dans le projet de d'état de femme, c'est-à-dire mettre en scène une déclinaison d'état de corps à travers une déclinaison de matière. Et la confrontation aux différentes matières va engendrer différents états de corps. Et donc ces matières révèlent un propos artistique qui va trouver sa trame, sa structure à partir d'une expérience sensible. D'autres marionnettes sont présentes au sein de la représentation qui sont fabriquées au préalable, qui ne sont pas générées sur scène, mais chacune d'elles est conçue et manipulée de façon à faire ressortir sa matérialité. L'une d'entre elles, par exemple, est constituée d'un matériau élastique et les manipulateurs jouent sur la difficulté physique que constituent ces membres élastiques qui ne permettent pas facilement de trouver un équilibre, de trouver une démarche stable, puisque tout est toujours en mouvement, en cours de, enfin, s'étire ou voilà, se réduit. Et la marionnette, du coup, apparaît au spectateur comme un personnage malhabile, enfantin, avec des capacités physiques limitées. Et puis, une autre marionnette, entièrement en bois, très élancée et rigide, est tout à coup prise d'un fantasme de modelage et exige de son manipulateur qu'il lui ajoute des prothèses mammaires anglaises. Corps réel, corps fantasmé se côtoient et confrontent le spectateur aux maladresses et aux limites du corps et aux fantasmes, bien sûr, du corps. La dernière marionnette employée est une femme tout en rondeur, faite en mousse et en toile de jute et manipulée derrière un écran plastique transparent, ce qui permet au manipulateur d'effacer les contrastes du corps de la marionnette et de la rendre ainsi moins aboutie. Les contours sont plus flous, indistincts, et la rendent plus proche de l'état de matière. C'est-à-dire qu'on a une marionnette qui avait l'air aboutie et dans la représentation, elle n'a trouvé sa place que lorsque son corps était rendu du coup plus proche d'un état de délitement de matériaux grâce à l'intermédiaire d'un film plastique. Bon, c'est difficile à voir là, mais on voit cet effet de flou qui est aussi souligné par l'utilisation de la lumière. Ces trois marionnettes anthropomorphes, qui étaient donc conçues en amont de la représentation, toutes de tailles différentes, sont immédiatement identifiées comme des marionnettes. Mais elles se rapprochent de la matière au cours de la manipulation. Elles deviennent, elles aussi, des figures au bord du délitement, toujours en instance de disparition ou de mutation, une matière en gestation. Ici donc, on assiste à un processus de production, une exploration de la matière qui nous livre plusieurs concrétions successives et qui du coup nous laisse entendre que ces concrétions ne seront que des concrétions dans un temps donné et qu'elles sont forcément amenées à disparaître. Finalement, dans cette démarche, la mimésis se voit supplantée par une démarche plus proche d'une forme de métis qui correspond à la figure de Dédale. Dédale, c'est le créateur des labyrinthes. Dédale est représentatif de la figure de l'artisan. Ça, c'est notamment dans un ouvrage de Françoise Frontizy-Ducroux qui est très intéressant sur ce sujet. Donc c'est l'artisan, il est donc la figure d'un créateur qui ancre son travail dans un processus de production. Sa particularité, selon Françoise Frontizy-Ducroux, c'est d'être un technicien de l'illusion. Or, cette notion de métis qui vient proposer un autre rapport à la mimésis peut se traduire, à l'instar de Jean-Pierre Vernant et Marcel Détienne, comme l'intelligence à l'œuvre dans le devenir en situation de lutte. Et ces deux traducteurs précisent que la métis revêt la forme d'une puissance d'affrontement. Elle est en cela une posture créatrice qui éclaire avec une grande acuité les évolutions contemporaines de la création marionnettique. L'intelligence à l'œuvre dans le devenir est fondée sur un principe de transformation. Or, la métis implique un écart par rapport à la mimésis, une prise de distance. Elle permet d'introduire une instabilité dans la stabilité des représentations du monde. Cela implique de ne pas craindre de bouleverser profondément nos actuelles pratiques du regard, voire de les remettre en cause. L'exploration et la déconstruction des mécanismes du regard est une aventure de grande envergure. C'est à cet endroit-là que l'esthétique de la métis prend tout son sens, car elle n'est pas seulement l'intelligence à l'œuvre dans le devenir, mais aussi un moyen de vaincre dans une situation de lutte. C'est-à-dire qu'elle dote ceux qui l'utilisent d'une puissance d'affrontement, d'une capacité à proposer des alternatives, à entrer en opposition avec les évidences et les cadres préconçus. Confronter le spectateur à la matière, c'est aussi éduquer son regard et s'emparer de la matière sans crainte et sans remords. Merci beaucoup.